Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Open Studio Stammtisch.
Las citas de l'Opéra Studio.
Opera Studio Rendezvous.
和科尔玛歌剧工作室的约会。
Let's go meet the Opera Studio.
Dita famette l'Opéra Studio.
Встреча с оперной студией.
Opéra Studio, bonjour.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Et c'est parti pour une nouvelle émission des rendez-vous de l'Opéra Studio en compagnie aujourd'hui de Damien Gastel.
Bonjour Sandrine, bonjour,
bonjour
à tous.
Bonjour, bonjour Damien. Et donc pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Opéra Studio est basé à Colmar, à la Comédie de Colmar, donc à la Manufacture. Hein, et cette institution existe depuis 1998, mais s'appelait à l'époque les Jeunes Voix du Rhin. Et c'est en 2008 que les Jeunes Voix du Rhin ont changé de nom pour s'appeler l'Opéra Studio. Qu'est-ce que l'Opéra Studio? Eh bien, c'est une formation passerelle, tout simplement, entre la fin des études supérieures dans les conservatoires où les jeunes ont étudié et le grand bain de l'opéra. Et ces étudiants viennent de tous les pays, et même d'Alsace, comme aujourd'hui avec notre ami Damien.
Et oui, c'est mon cas, je suis le local de l'étape.
Très, très bien.
Je suis strasbourgeois, je crois même que je suis le premier Alsacien à intégrer cette structure-là.
Ah bah très bien, bah bravo, félicitations.
Merci, merci.
Et donc tu viens d'ici, on est d'accord.
Tout à fait, je viens de Strasbourg, mais c'est un hasard que je me retrouve à l'Opéra Studio parce que j'ai fait mes études à l'étranger. J'étais 7 ans en Allemagne avant
Raconte-nous ça.
Eh bien, j'ai commencé le chant à Strasbourg, dans un conservatoire, au conservatoire de Strasbourg. Et après mes années de conservatoire, j'ai intégré la Musikhochschule, donc le conservatoire supérieur de musique de Dresden en Allemagne, dans l'est de l'Allemagne, oui. Où j'ai fait ma licence 4 ans. Et après ça, je suis allé à Munich pour 2 ans pour terminer mes études par un master. Voilà.
Bravo, bravo, très belle formation. Félicitations, mon cher ami. Et donc, pourquoi es-tu venu à l'Opéra Studio?
L'Opéra Studio, bah déjà, c'est une structure qui est assez connue dans toute l'Europe. J'en veux pour preuve que tous mes camarades viennent du monde entier. On
Tout
a
à fait.
Un Australien, nous avons des Asiatiques, on a un Américain, on a un Russe. Donc, c'est quelque chose de connu. Et ce sont des petites structures passerelles, comme tu disais avant, qui
ouais.
permettent d'intégrer plus facilement le monde, le grand bain de l'opéra. Donc, c'est en tant que jeune chanteur, c'est important d'intégrer ce genre de structure pour se faire un carnet d'adresses, pour faire beaucoup de productions, pour rencontrer d'autres collègues chanteurs, pour rencontrer des agents. Voilà, c'est à ça que sert ce genre de structure et c'est pour ça qu'on essaie tous d'y rentrer.
Mais oui, oui, oui. Et d'ailleurs, la sélection est très, très, très difficile parce que chaque année, aux auditions, sont présents de nombreux artistes, effectivement, du monde entier.
Il faut le dire.
Bravo déjà d'être ici.
Merci
et
beaucoup.
Cela présage, évidemment, une très jolie carrière parce que, en effet, grâce à cette structure, vous avez l'occasion de travailler tous en masterclass avec des personnes du monde lyrique reconnues nationalement, internationalement. Finalement, c'est vraiment une grande chance pour vous.
C'est une énorme chance. On a eu l'occasion ces dernières semaines de travailler avec des pianistes chefs de chant, également des chanteurs de renommée internationale comme Stéphane Degout, par exemple,
oui.
qui est un baryton très célèbre en tant que baryton. Donc, j'étais aux anges, bien sûr,
mais
avec
bien
lui.
Évidemment, bien évidemment.
Et voilà, ça permet aussi de rencontrer ces personnes-là qui sont très influentes et qui nous inspirent aussi musicalement et qui nous donnent un nouveau souffle, une impulsion nouvelle, quelque peu.
C'est ça. Oui, oui. Ce sont de très, très belles personnes aussi, très généreux.
Tout à fait.
Et c'est vrai que ce sont de très belles rencontres, toujours, toujours. Et donc, tu parles de baryton. Le baryton Stéphane Degout, et tu es
oui.
toi-même baryton.
Mais exactement. Cette drôle de bête. La voix de baryton, bah, vous l'entendez certainement derrière vos radios. C'est une voix assez grave, mais c'est la voix la plus commune à tous les hommes. Je me situe entre le ténor, qui est la voix la plus aiguë chez les hommes, et la basse, qui est vraiment encore beaucoup plus grave que moi.
Tout à fait.
C'est la voix la plus commune. C'est une voix travaillée, bien sûr, qu'on retrouve à l'opéra dans de nombreux rôles et dans des situations très particulières. Genre, donc la voix de baryton Et souvent, à l'opéra, la voix du père, la voix de l'ami, la voix du confident, la voix même du grand-père par moment, c'est le deuxième plan. Le ténor est souvent au premier plan et le baryton est... Oui, voilà, l'ami fidèle à côté. Ouais.
Oh, il est parfois le traître.
Il est parfois aussi le traître ou le méchant.
Oui, ça, c'est, oui, c'est intéressant aussi, parce que les rôles de méchants sont très intéressants à interpréter. Je crois.
Oui, bien sûr, c'est un plaisir tout particulier d'incarner. J'ai déjà eu la chance d'incarner un méchant, il y a quelques années de ça, dans un rôle d'un opéra de Saint-Saëns, L'Ancêtre, où j'étais le méchant, et c'était un plaisir...
Mais oui.
C'était une jouissance de pouvoir faire ça.
Bah oui, parce qu'on peut pas le faire dans la vie, en fait.
On peut pas être méchant comme ça tout le temps dans la vie. Donc là, c'était vraiment un délice de pouvoir faire ça. Mais les rôles les plus célèbres, j'ai commencé tout jeune chanteur avec des Papageno, avec des Valentins dans le Faust de Gounod.
Papageno, donc.
Papageno, c'est dans La Flûte Enchantée, hein,
de Mozart.
Des rôles mozartiens, Guglielmo.
Oui,
Così fan tutte. Yeah. Des rôles, bien sûr, du répertoire italien que j'aimerais bien incarner un jour. Don Carlo, par exemple.
Ah oui, magnifique.
Rodrigo, rôle. Tout ça, bah, ce oui, sont des sûr. Rôles rêvés.
Ah bah ça, c'est l'ami fidèle, alors là.
Là, c'est l'ami fidèle, tout
ah,
à
oui,
fait.
Oui, oui,
tout
ça,
à fait.
C'est. Et puis le duo avec le ténor est magnifique. Hein.
Ah oui,
tout le monde rêve de chanter ça. Ah mais moi, je pourrais. Pas, mais toi, oui.
J'espère.
Ah oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Et parmi tous ces rôles, il y a un rôle qui est plus d'actualité pour toi en
tout
ce moment.
Fait,
est-ce que
fait.
Tu peux nous expliquer ?
Alors, nous sommes en ce moment en production pour L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel, où j'interprète le rôle très rigolo de l'horloge.
Eh oui.
Une horloge comtoise. Mais alors, comment on peut incarner en tant que baryton une horloge comtoise ?
Ah, bah ça.
Ça, c'est tout le secret de Colette et de Maurice Ravel. Et je ne vous dévoile rien. Il va falloir venir nous écouter. Je fais de la publicité.
C'est... Tout à fait. Tout à fait. À partir du 15 décembre, d'ailleurs. J'en profite pour glisser une petite info. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, je t'ai coupé, Damien.
C'est un rôle. Je fais le chat et l'horloge comtoise. L'horloge comtoise qui est quelque peu déréglée et qui n'a de cesse de faire ding, 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 ding.
Voilà, eh ben oui, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il lui a fait ?
Et l'enfant a cassé, le méchant enfant au début, a cassé l'horloge.
Eh oui, donc elle est complètement déréglée.
Elle est complètement
déréglée. Et elle ne peut plus s'arrêter de sonner.
Et elle ne peut plus s'arrêter de sonner.
Et on va l'écouter.
Je ne peux plus m'arrêter de sonner, je ne sais plus la tiner, il m'a ôté mon balancier. J'ai d'affreuses douleurs de tente, j'ai un courant d'air dans mon sang, et je commence à divaguer. Ding, 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 laissez-moi au moins passer, que j'aille cacher ma honte, sonner m'insira mon âge. Moi, qui sonnais de douces heures, heureux de dormir, heureux de veiller, heureux qui ramène celui qu'on attend. Heureux béni, ou naquit le méchant enfant. Peut-être que, si ne m'eût mutilé, rien n'aurait jamais changé. Dans cette demeure, peut-être qu'aucun n'y fut jamais mort. Si j'avais pu continuer de sonner toutes pareilles les unes aux autres, les heures. Laissez-moi cacher ma honte et ma douleur, le nez contre le mur.
Pauvre horloge, complètement déréglée.
Complètement cassée. Si vous venez voir notre spectacle, et je vous encourage à le faire, vous verrez des costumes très rigolos, très amusants.
Ah mais tout à fait, tout à fait.
Que des petits teasers pour nos éditeurs.
Alors, je précise quand même que la version que nous venons d'entendre, là, est chantée par Régis Mingus lors des représentations à la Philharmonie de Paris en octobre 2021, donc il y a très peu de temps, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Mikko Franck. Donc, pour revenir au répertoire que nous sommes en train de travailler en ce moment, c'est-à-dire L'Enfant et les Sortilèges, et Ravel qui a écrit donc cet ouvrage avec sur un livret de Colette d'ailleurs, a écrit d'autres partitions bien évidemment pour chant. Oui. Et est-ce que toi-même tu as eu l'occasion d'interpréter, de travailler, de te plonger dans d'autres partitions de Maurice Ravel ?
Tout à fait, j'ai chanté pas mal d'œuvres de Ravel au cours des derniers mois. Alors il y a des œuvres très très connues pour baryton tout spécifiquement. Par exemple, les chansons de Don Quichotte,
ah oui.
de Ravel, ça c'est quelque chose
magnifique.
De très connu. Et ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de chanter les histoires naturelles de Maurice Ravel sur des textes de Jules Renard. Je l'ai chanté en récital la semaine dernière et c'est une œuvre, un bestiaire en fait, qui
D'accord.
raconte, qui parle d'animaux. Et si je devais faire un petit parallèle entre l'œuvre qui nous occupe en ce moment à l'Opéra Studio, c'est-à-dire L'Enfant et les Sortilèges, et cette œuvre-là, Les Histoires Naturelles, c'est le traitement que Maurice Ravel fait du texte. Maurice Ravel est très moderne dans son traitement du texte, là où Maurice Ravel, en fait, a su comprendre l'évolution de la langue et écrire des figures rythmiques tout à fait modernes là-dessus. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je veux dire.
Si, si.
Il a su comprendre la modernité et l'évolution du langage et s'adapter rythmiquement, mélodiquement, harmoniquement à cette modernité-là. Voilà.
Ah oui.
Et c'est ça que je retrouve dans les deux œuvres, en fait. Et ce qui est aussi tout à fait intéressant pour moi.
Oui, puis il a une fantaisie aussi, parce que quand même, faire parler une horloge, les animaux,
un chat, dans,
ah, mais bien sûr,
une horloge, ou alors dans les histoires naturelles, un grillon, une cigale,
le pan, non,
le
c'est
pan,
bien aussi,
exactement,
ah, oui,
bien sûr,
ouais,
la dinde,
ça. Oui.
Ça c'est très rigolo,
mais oui, mais oui.
Et il utilise des moyens qui sont absolument fantastiques, toujours très ciblés, toujours très fins, toujours raffinés. Hein, on n'est pas en train de faire des choses outrancières ou un peu gauche, mais c'est toujours très très bien fait.
Ah oui, tout à fait. Pour en revenir à L'Enfant et les Sortilèges, que je vous raconte un petit peu l'histoire pour que vous compreniez mieux pourquoi cette horloge parle, pourquoi ce chat qu'on va entendre et cette chatte ont un duo d'amour quand même. C'est un duo très, c'est un duo torride. Hein,
érotique.
On peut le dire, érotique. Et voilà ce qui se passe dans L'Enfant et les Sortilèges. L'enfant a 7 ans. Il a 7 ans, il est assis, il est grognon. Il n'a pas envie de faire ses devoirs. Non, mais là, il en a vraiment assez. C'est la rébellion qui monte. Et quand sa maman arrive et lui demande s'il a été sage et s'il a fini sa page, ah non, là, c'est la crise. L'enfant n'en peut plus. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est saisi d'un accès de colère parce que la maman se fâche, évidemment, il n'a pas fait ses devoirs. Et qu'est-ce qui se passe ? Il jette la tasse chinoise et la théière, martyrise l'écureuil dans sa cage, tire la queue du chat qu'on va entendre chanter bientôt par Damien.
Il me fait mal, hein.
Ah mais oui, il fait mal, mais parce qu'il est vraiment en pleine crise, en pleine rébellion, hein. C'est post ado quand même, parce que 7 ans, il est en avance sur son âge, le garçon. Il attise la braise avec un tisonnier, renverse la bouilloire, il déchire son livre, arrache le papier peint, démolit la vieille horloge qu'on a entendu tout à l'heure sonner sans pouvoir s'arrêter. Et puis finalement épuisé, il se laisse tomber dans un fauteuil. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Tous ces objets, tous ces animaux qui ont été martyrisés par l'enfant décident de se venger. Et il se passe des choses un petit peu incroyables. Et là maintenant, nous allons écouter le duo du chat et de la chatte chanté, qui est un duo, excusez-moi, extrait pardon, de L'Enfant et les Sortilèges. Nous écoutons.
Yeah.
voilà ce duo torride entre un chat et une chatte, interprété ici par Régis Mingus, le chat, et Anaïck Morel, la chatte, accompagnée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la baguette de Mico Franck, et La petite phrase de l'enfant était interprétée par Chloé Brio. Donc pour en revenir à ce répertoire de Ravel et cette musique française, quelle différence pourrais-tu faire entre justement ce répertoire très très spécifique, très proche de la langue, et le répertoire lyrique qu'on aborde également quand on est chanteur lyrique, comme les Verdi, comme tout ce grand répertoire qu'on a l'habitude d'entendre et avec toujours autant de plaisir d'ailleurs.
Eh bien, déjà pour revenir sur le duo chat-chat et revenir aussi sur ce que je disais avant, le traitement du texte, vous avez remarqué que le texte là était très bien interprété.
On a bien compris. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un petit peu le duo des chats de Rossini qui a fait aussi un duo, mais beaucoup plus contrôlé. Les chats de Ravel, oulala.
Eh bien, le traitement entre un opéra plus lyrique, un Verdi, un Wagner, Donizetti et Ravel, le travail est toujours le même. Le travail vocal, on essaie de donner le meilleur de soi et de sortir les plus beaux sons de sa voix. Néanmoins, on donne juste un petit accent particulier sur le texte. Là, c'est vraiment, à mon sens, vu que c'est très théâtral en plus qu'on va faire, et ce serait vraiment pour les enfants, mais aussi pour les adultes, très porté sur le théâtre, il faut donner une attention toute particulière sur chaque mot qu'emploie Colette et qu'a mis en couleur, j'ai envie de dire, Ravel. Ouais. Donc ce sera effectivement, pour pouvoir mettre en lumière ou souligner ce texte, effectivement, l'aspect vocal est peut-être un tout petit peu moins présent. La beauté du chant, le bel canto, est peut-être un peu moins présent. Et on s'attache vraiment à rendre ce texte le plus justement possible.
Oui. C'est ça, pour les personnages que tu interprètes, c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a des lignes mélodiques aussi dans L'Enfant et les Sortilèges.
Bien sûr, ça n'empêche
qui
pas.
Sont, voilà, qui sont, par exemple, si on écoute voilà, l'air de la princesse.
Exactement.
Voilà, qui est complètement le contrepoint de ça. Ce sont des couleurs toutes indispensables, finalement, et qui sont très complémentaires et qui forment ce très bel ouvrage de L'Enfant et les Sortilèges, parce qu'on y retrouve tout, finalement.
Exactement. C'est la princesse. Or, voilà. Moi, j'incarne un autre personnage qui est l'horloge comptoise déréglée, folle,
qui est en roue libre.
Et là, on ne peut pas se permettre de faire quelque chose de magnifique. Ça va très vite, c'est très violent. Il y a beaucoup de textes. J'ai énormément de textes à débiter.
C'est vrai, c'est très bavard. Et donc, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, ce rapport au texte qui est très, très, très important et qu'on doit vraiment mettre en avant dans ce type de caractère ici.
Il n'y a pas un mot qui n'est pas choisi très spécifiquement par ce duo.
Tout à fait. Mais contrairement, enfin, moi, je dirais que effectivement, ça va très vite. Effectivement, l'horloge, c'est un personnage un peu comme ça, déréglé. Mais justement, ça nécessite une maîtrise de la voix et du geste vocal parce que là, il faut penser à tout et très vite.
Exactement. C'est pour ça que c'est peut-être pas un opéra pour débuter, même si c'est pour enfants et que le thème est plutôt assez féerique, ça a rien d'enfantin dans le traitement vocal parce qu'il faut avoir fait ses armes un petit peu avant, avoir fait des choses plus qui tombent mieux sous les cordes, envie de dire, des Mozart qui mettent bien en jambe, on peut vite se faire mal avec ce genre de répertoire
fait
mal.
Il faut maîtriser, il faut avoir un niveau technique assez élevé pour pouvoir l'aborder.
C'est vrai pour moi, c'est vrai pour tous mes camarades.
Tout à fait, complètement. Et donc dans cet Enfant et les Sortilèges qui va être donné, nous, dans une version réduite, qui a été pensée et réalisée par Didier Puntos, une version pour piano quatre mains. Donc en fait, quatre mains, ça veut dire que deux pianistes seront sur un même piano, chacun à son petit territoire. Et donc Didier Puntos aura une partie, la partie basse, je pense, plutôt grave. Et chacun leur tour, Levi, notre chef de chant américain qui est arrivé au studio cette année, et Rosa, notre chef de chant coréenne, arrivée également cette année, vont se partager les représentations, chacun leur tour pour assurer la partie aiguë de cette partie pour piano à quatre mains, et ils joueront en compagnie de deux autres instrumentistes, un violoncelliste qui s'appelle Octave Diaz, et en alternance aussi un flûtiste, mais on a deux flûtistes qui sont sur la production, qui sont Miguel Austreichaité, j'espère qu'elle me pardonnera ou qu'il me pardonnera pour la façon dont je prononce le nom, et Noah Berkovitch, qui sont donc deux flûtistes qui joueront à tour de rôle également.
Tout à fait.
Voilà, ce sont des jeunes en classe supérieure de musique à la IR de Strasbourg. Pour être tout à fait complète, je dirais que la mise en scène est assurée par Émilie Caplier, qui est la co-directrice de la comédie de Colmar. Et vous avez entendu l'horloge, vous avez entendu le duo des chats, finalement. Eh bien, il y a aussi dans cette partition de L'Enfant et les Sortilèges des parties de chœur.
Tout à fait.
Qui sont chantés par tous les solistes réunis.
C'est un opéra de poche. Nous ne sommes que 8 chanteurs, il me semble.
Exactement.
Donc 3 instrumentistes. Nous n'avons pas de chœur.
Non.
Nous n'avons pas de chœur d'enfant non plus. Nous faisons tout.
Oui.
Ça veut dire que nous sommes une troupe, en fin de compte.
Complètement.
Et on s'occupe également des parties, des parties chorales, des parties chantées ensemble. Et c'est d'autant plus intéressant parce que les parties chœur sont magnifiques.
Oui.
Et très rigolotes aussi.
Oui.
Je pense qu'on va écouter le jardin dans pas très longtemps.
Exactement, tout de suite. Là.
Tout de suite, et ben voilà.
Et ben voilà, écoutons le jardin. Voilà, magnifique interprétation par le chœur de Radio France, dirigé par Sophie Janin, et l'orchestre philharmonique de Radio France, avec dans le rôle de l'enfant Chloé Brio, dirigé par Mico Franck. Donc, nous sommes...
Encore un exemple parfait,
oui,
du traitement moderne de Maurice
Ravel,
de la voix.
Complètement, complètement. Parce que ce sont que des chanteurs qui chantent, qui font des animaux, qui font des couac-couac, et on a vraiment l'impression d'être dans un jardin.
Pour rien vous cacher, au début, je me suis dit, bon, ça doit être quelque chose de... une improvisation, au final, où chacun a une ligne à chanter. Mais c'est extrêmement détaillé dans la partition, c'est très précis.
Ouais.
Et c'est ça qui fait que la magie du jardin s'ouvre sur des animaux improbables.
Alors, on a compris que tu adorais Ravel.
J'aime énormément.
Ah oui, bah, on a compris.
Mais pas que.
Ah ben voilà, bien justement,
j'ai
rebondissons.
J'ai une affection pour tout le répertoire français, de manière générale.
Alors, vas-y, raconte-nous un petit peu.
Ah non, en général, je suis fan de tout ce que je chante sur le moment, hein, comme
oui,
la plupart
ah, bah,
des
ça,
chanteurs,
c'est, bien. Ouais.
C'est évident. Ouais. Mais j'ai une affection toute particulière pour le répertoire français, avec Francis Poulenc, Maurice Ravel, Debussy, ce sont des compositeurs que j'aime énormément. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, ayant fait mes études en Allemagne... J'aime énormément le lied allemand aussi, Schubert, Schumann, Wolf, ça c'est des choses qui me parlent aussi beaucoup. Donc je suis, en tant qu'Alsacien d'ailleurs, un peu une
symbiose
des deux.
Je n'osais le dire.
Une symbiose des deux, hein, bien
c'est,
sûr.
C'est toute la richesse, mais oui, bien sûr, bien évidemment. Et les rôles dont tu rêves d'enfiler le costume, est-ce que là, quelques-uns te viennent à l'idée?
Oui, on parlait tout à l'heure de Don Carlo, donc de Rodrigo dans Don Carlo. Ça, c'est un rôle que j'aimerais énormément interpréter. Pour le répertoire allemand, j'aimerais beaucoup chanter Tannhäuser, qui est un rôle un peu plus abordable dans les rôles wagnériens pour un baryton, pour un jeune baryton. C'est dans quelques années, à mon avis, ce sera faisable. Et ça, ce serait vraiment un rêve de pouvoir interpréter un rôle pareil. Sinon, il y a plein de rôles que j'aimerais interpréter. La liste est énorme, je ne vais pas la détailler ici.
Et parmi les projets futurs de l'Opéra Studio, sur mes deux côtés, l'Enfant et les Sortilèges, qu'on est en train de répéter en ce moment et dont on est en train d'explorer toutes les pistes, quels sont les projets qui te remplissent le plus de joie? Enfin, c'est un petit peu une grande expression, mais quels sont les projets qui t'intéressent plus particulièrement, disons, pour les quelques mois à venir?
Pardon. Alors, l'Enfant et les Sortilèges va beaucoup nous occuper parce que c'est un opéra nomade itinérant. Donc, nous serons occupés 2 ou 3 mois avec cet opéra. Et en dehors de cela, nous allons donner à l'Opéra du Rhin beaucoup d'heures lyriques où je serai en tant que baryton participant actif de ces heures lyriques. Une autour de « Nous voulons de l'amour », ça ce sera pour la Saint-Valentin.
Oui, le lead.
Voilà,
c'est
exactement.
Ça.
Il y aura aussi une heure lyrique autour de Mozart.
Oui.
Et celle que j'attends particulièrement, c'est l'heure lyrique autour de la figure du gitan, du tzigane dans la musique romantique.
Oui.
Parce que là, le répertoire est très riche. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais chanter, j'ai quelques idées.
Ah ben très bien.
Et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, ça me parle aussi beaucoup. Et on va finir en beauté aussi avec la comédie musicale, ça aussi. J'attends ça avec impatience.
Ah,
Trouble
oui,
in
Tahiti. Génial, du génial Bernstein.
Ah, voilà,
mais oui,
ça ce
sûr.
Sera un moment fort pour terminer l'année en feu d'artifice.
Ouais.
C'est quelque chose que j'attends avec impatience.
Oui, c'est vrai que on va beaucoup s'amuser, ça c'est sûr. Beaucoup travailler aussi parce que c'est de la musique très tout ça.
C'est très
toujours
exigeant.
Mais c'est ça en fait, on s'amuse, on se prend pas au sérieux, mais on fait les choses très au sérieux à l'Opéra Studio. C'est notre marque de fabrique. Tout à fait. Et donc, pour revenir sur la tournée de l'Enfant et les Sortilèges, elle commence, nos représentations commencent le 15 décembre à 15h à la Comédie de Colmar. Notez ça sur vos tablettes. Et la toute dernière a lieu à Mulhouse le 20 mai. Vous vous rendez compte l'amplitude. Et donc, nous allons nous rendre, donc, on commence à Colmar. Après, nous allons être au Théâtre de Haute-Pierre à Strasbourg. Ensuite, au Dôme de Mutzig. Ensuite, au Théâtre Municipal de Sainte-Marie-aux-Mines. Je tourne ma page. Après, à l'ACB, scène nationale, Bar-le-Duc. Et pour finir, notre tournée au Centre socioculturel Pax à Mulhouse, où donc, effectivement, la dernière aura lieu le 20 mai à 19h. Et parmi toutes ces représentations, beaucoup de scolaires. Hein. Là, j'en ai compté. J'ai compté 38 dates, 22 scolaires. Donc vraiment, nos petits amis vont pouvoir venir voir cette production qui, j'espère, va leur parler, va réveiller un petit peu les rêves que tous les enfants ont en eux. Et donc, pour finir tranquillement cette émission, cher Damien, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les choses, les hobbies que tu as en dehors de tout ce travail d'artiste lyrique?
Oh, j'aime beaucoup me balader en forêt. J'aime beaucoup lire. Je lis en ce moment un roman passionnant. Je suis passionné d'histoire de France qui s'appelle Les Rois Maudits. C'est un roman très vieux. Je suis en plein dedans en ce moment. Et j'aime beaucoup passer du temps avec mes amis. Je suis un bon vivant. J'aime bien. Voilà, exactement. J'aime bien manger, surtout en Alsace.
Ah, ben on mange très
bien,
très
n'est-ce
bien.
Pas
ah, mais oui.
Ça s'y prête bien. Voilà
tout
à peu près mes occupations en dehors de l'opéra qui nous prend quand même, à nous tous, chanteurs, beaucoup de temps. C'est un métier de sacrifice, fait de sacrifice, qui à plein temps, quoi, ce qui nous occupe beaucoup.
Oui, oui. Bah, par exemple, à l'Opéra Studio, en ce moment, on répète tous les jours, sauf le dimanche.
Voilà, c'est ça.
C'est pas compliqué, hein, c'est bien résumé. Et donc, le dimanche, on en profite pour travailler ce qu'on n'a pas eu le temps de travailler dans la semaine.
Voilà.
En gros, c'est ça. Et quand on arrive à avoir une demi-journée où on se dit, je me repose, je pense à rien, on est content. Et c'est exactement là qu'on peut ouvrir son bouquin.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Eh bien, Damien, je te remercie beaucoup
pour ce moment
très agréable passé avec toi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine émission des Rendez-vous de l'Opéra Studio. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.
Les Rendez-vous de l'Opéra Studio.
Open Studio Stammtisch.
Las citas de l'Opéra Studio.
Opera Studio Rendezvous.
和科尔马歌剧工作室的约会。
Let's go meet the Opera Studio.
Di trafamette opera studio.
Встреча с оперной студией.
Opera Studio Boyara.
Les Rendez-vous de l'Opera Studio.